pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes fêtent à saccager les pions. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Gaffe les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes bien sur l'Envolée 106.3, non sur, c'est l'émission L'Envolée sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, est rediffusée dans plein de radios locales un peu partout en France et ça fait plaisir. Merci d'ailleurs à eux et à tous ceux qui participent à nous diffuser. Ce soir, il y a pas mal de monde qui est en vacances, mais il y a quand même du monde qui est là autour du micro. Donc tout d'abord, il y a Arthur, il y a Isaac, Mel qui est avec nous aussi, et Serge qui vous salue. Une émission, je sais pas, tu veux faire le fil, Arthur ?
Ouais, donc aujourd'hui, on va commencer par parler un peu des parloirs. Donc on va avoir une petite lettre et après Elsa qui va nous parler des nouveaux problèmes qu'il y a dans les parloirs liés au Covid dans les tôles. Ensuite, avec Mel et Isaac, on va revenir un peu sur le mouvement Gilets jaunes à Amiens, un peu comment c'est construit et surtout la répression que vous avez subie là-bas et un peu en fait où ça en est aujourd'hui.
Et puis on terminera aussi en fonction du temps qu'on aura pour parler du collectif des mutilés pour l'exemple avec deux autres copains et copines qui vont nous rejoindre dans pas trop longtemps. Et pour commencer, on a reçu pas mal de courriers mais qu'on va lire plutôt la semaine pro. Mais merci en tout cas aux gens qui nous ont écrit. On va commencer avec un petit bout de lettre de l'infâme qui parle des parloirs. Derrière, on donnera la parole à Elsa.
Ouais, donc c'est une lettre qui nous a été envoyée le 2 novembre depuis le quartier d'isolement de Valence, donc de l'infâme dont on relaie souvent la parole à cette antenne. Donc, concernant votre sondage, entre guillemets, sur les parlus. En fait, j'ai eu parloir avec A et A, mes frérots de cœur. Et dès que les surveillants sont venus me chercher pour aller au parloir, le ton était donné. Aucun contact d'aucune forme que ce soit. Pas d'embrassade, pas d'accolade, même pas un serrage de main possible. Sous peine qu'on nous fasse sauter le permis de visite. Et port du masque obligatoire. Quelle frustration de fou malade ça a été de ne pas pouvoir serrer mes frérots dans mes bras sans même pouvoir leur faire la bise, ni même leur serrer la main. Ouais, voilà, pour dire, c'était quand même un premier parloir, et surtout un premier parloir pour lui après vraiment plus de 10 ans sans visite. Et du coup, en fait, ils lui ont dit vraiment au dernier moment, c'est-à-dire qu'ils lui avaient rien dit jusque-là, et c'est vraiment au moment où ils viennent le chercher à la cellule qu'ils lui disent par contre, le moindre faux pas, on te fait sauter ton permis, quoi.
Ouais, c'est toujours le même truc, le parlu qui est utilisé comme un moyen de répression à l'intérieur. Et le Covid leur donne vraiment une très très bonne excuse. Et on donne la parole à Elsa qui le rappelle aussi très bien.
Il a bon dos le Covid. C'est la cata pour les prisonniers, les prisonnières et leurs proches dans les prisons en France depuis mars 2020. Ils n'ont toujours pas le droit de se toucher, en fait. Et ceci dans l'indifférence la plus générale. Malgré un décret qui est sorti en juillet 2021, une note de l'administration pénitentiaire qui disait que les plexiglas qui avaient séparé radicalement les prisonniers de leurs visiteurs et visiteuses pendant plus d'un an allaient être enlevés. Mais ces plexiglas peuvent être remis si jamais il y a des cas de contamination dans la prison. Donc c'est ce qu'ils font. Et surtout, l'interdiction totale de se toucher entre les prisonniers et prisonnières et les personnes qui les visitent est maintenue. Donc, ils sont soumis à l'arbitraire le plus total. Il y a des prisons où c'est toléré, il y a des prisons où ça ne l'est pas. Ça dépend des prisonniers, ça dépend de l'humeur du maton. Donc, c'est super important. Il y a des personnes qui en parlent. On va vous faire écouter deux petites interviews. De Adeline dans le Compagnon et à la centrale de Moulins, et de Estrella dans le Compagnon et à la centrale de Saint-Maur. Elle nous raconte comment ça se passe. Il faut vraiment rappeler que, avant le Covid, les prisonniers et les prisonnières avaient droit de toucher leurs proches, avaient droit à un peu plus d'intimité, et que là, les conditions se sont vraiment, vraiment dégradées, et que des droits perdus en prison, c'est très, très difficile de les retrouver. Et pour rappel, quand même, en 2005, dans cette même centrale de Moulins, les prisonniers avaient menacé le directeur de lui casser sa prison s'il les empêchait de niquer. C'est Laurent Jacquat qui en parle dans le journal L'Envolée numéro 29. À cette époque, ils avaient obtenu par le rapport de force la possibilité d'être en toute intimité dans les cabines de parloir, fermées, avec des serviettes mises en guise de rideaux sur les vitres et des petits matelas pour faire ce qu'ils avaient envie avec leurs compagnes dans les cabines. Vous voyez qu'on en est loin. Le Covid a servi de super prétexte pour balayer tous les aménagements obtenus par les prisonniers, par les prisonnières, par leurs proches. Voilà, donc n'hésitez pas à faire savoir un peu comment ça se passe dans la prison où vous êtes ou dans la prison où vous visitez. C'est important de savoir et faire savoir ce qui se passe. Et pour le moment, merci à Adeline et Estrella. On leur laisse la parole.
Salut Adeline.
Salut.
Ton compagnon est incarcéré à la centrale de Moulins, une centrale pour longue peine. Et nous, on voulait faire le point un peu sur la situation dans les parloirs depuis le Covid. Lors du premier gros confinement, là en mai 2020, les parloirs, ils ont été coupés complètement. Ensuite, ils ont été rétablis, mais avec des plexiglas dans presque tous les parloirs de France. Et là, officiellement, depuis cet été, il n'y a plus de plexiglas. Mais il y a toujours une interdiction officielle, plus ou moins aléatoire, de se toucher. À Moulins, c'est comment ?
Ben moi, il est arrivé à Moulins depuis le mois de août. Donc, il est arrivé, il était aux arrivants. Et donc, j'étais au parloir le week-end de son arrivée. On est séparés par une table, mais ils nous ont dit il ne fallait pas se toucher. Mais comme il y avait la petite, donc elle n'avait pas vu son père depuis un petit moment déjà. Donc elle a sauté tout de suite dessus et puis ça l'a tenté d'embrasser sa fille. Puis c'est 10 jours en plus aux arrivants de confinement parce qu'il avait embrassé la petite lors du parloir. 10 jours de confinement, ça équivaut pour moi 10 jours de mi-temps parce qu'ils n'ont pas de sortir qu'une heure en promenade. Et ils font rien d'autre et ils sont confinés dans la cellule 23 heures sur 24.
Et ça, ils l'appliquent systématiquement ou c'est à la tête du client?
Non, c'est systématique.
Dès qu'un prisonnier il va toucher ses proches au parloir,
voilà, ouais. Il part en confinement.
Mais en fait, quand même, le parloir, c'est un des rares endroits où on est normalement un peu peinard.
Bah,
ils sont pas censés nous mater en permanence, donc ça veut dire qu'ils matent en permanence.
Ah oui.
Okay.
En plus, là-bas, nous, Moulins, c'est là pour l'instant les parloirs, vu que c'est venu comme Covid, hein, il y a beaucoup de prétextes du Covid, hein, on va dire. On est dans des blocs qui sont complètement tout vitrés, même on voit les autres détenus avec leur famille. Hein. Là, en plus, il y a des caméras.
Ok, il y a des caméras même dans les cabines.
Non, qui sont dans les couloirs, mais vu que c'est des grandes portes vitrées,
ouais.
Donc les caméras, ben ils voient, quoi.
Ah, ouais,
c'est okay. des caméras rotatives.
Ouais. Donc en fait, ils voient tout ce qui se passe partout.
C'est leur seul moment qu'ils voient leurs enfants, qu'ils peuvent les embrasser. Le gros prétexte, le Covid nous est tombé dessus, d'accord, mais c'était un gros prétexte, je pense, mon enfant. Hein. Que là, ils jouent encore plus du fait de la crise sanitaire. Pour faire des restrictions.
Et ces caméras-là, parce que moi, toutes les fois où je suis allée au parloir, il n'y avait quand même pas des caméras qui pouvaient voir dans les cabines. Et il y avait plutôt des matons qui passaient une fois de temps en temps vérifier ce qui se passe. Et encore, ça dépend de leur humeur et du prisonnier. Mmh. Donc là, ça veut dire que tous les prisonniers sont surveillés en permanence et partout, quoi.
Ah, bah, dans les parloirs, oui. Après, en détention, je ne sais pas, mais dans les parloirs, là, ouais.
Ok. Et ces caméras, elles sont nouvelles à Moulins?
Oui, parce que ça a tout été refait à Moulins.
Ouais.
Les parloirs, ça a tout été refait à neuf. Et même moi, j'ai été très surprise de voir ces caméras. Quoi. La petite, elle se lève de la chaise pour courir. Des fois, je la rappelle parce que je lui dis non, viens là, on ne sait jamais. Parce que j'ai peur qu'ils viennent à l'improviste et nous disent fin de parloir ou un truc comme ça. Quoi.
Et tu me disais là que récemment, en plus, ils avaient rajouté une petite surprise, enfin une petite donnée avec le fait que le régime est différent si on est vacciné ou pas.
Oui, alors ceux qui sont vaccinés peuvent de nouveau embrasser leur famille et après le salon familial et UVF, ils n'auront plus besoin de passer par la case confinement. Et ceux qui n'y sont pas, sont pas vaccinés, ils n'ont pas le droit à tout ça. C'est-à-dire embrasser leur famille et si après le salon et l'hiver, ils iront eux en confinement. Je trouve ça totalement dégueulasse.
Ouais, ok, carrément, ouais. Et ça veut dire que c'est les surveillants qui surveillent les gens et qui leur appliquent des sanctions diverses et variées en fonction qu'ils sont vaccinés ou pas.
Moi, je pense que c'est pour pousser à la vaccination. Déjà, ils sont privés de liberté et on leur impose des restrictions que nous, on a dehors.
Ouais, voilà, nous dehors, on est privés de piscine et eux, ils sont privés de faire un bisou à leurs proches, quoi.
Voilà.
C'est quand même pas le même degré.
Voilà, encore nous, même qu'on est privés de piscine dehors, on s'en fout, mais priver quelqu'un de d'embrasser à ses proches, c'est complètement dégueulasse.
Ok, et t'as eu des nouvelles d'autres prisons?
Moi, j'ai une amie qui va au CDI de Muret. Pour l'instant, eux, à Muret, ils n'ont toujours pas le droit d'embrasser leur famille, hein. Ils sont toujours séparés par la table et s'ils se touchent, c'est confinement pareil.
Donc, on est quand même bien d'accord que ça permet de faire encore plus de surveillance au parloir.
C'est de la sur-surveillance.
Ouais.
Même pour les familles, ils peuvent pas comprendre. Genre, on a été privés de les voir pendant je ne sais pas combien de temps l'année dernière parce que tout était fermé. Le moment où on peut les voir, ils peuvent voir leur famille, leurs enfants, ils n'ont pas le droit de les toucher, rien. C'est un peu dégueulasse, quoi, hein, tout ça. C'est comme moi, je dis tout le temps, c'est des êtres humains avant d'être des numéros d'écrou. Ils sortiront un jour, mais sauf que les matons, ils resteront entre les murs. Hein. C'est leur métier.
Mmh.
Mais au bout d'un moment, c'est des êtres humains, c'est pas des animaux. Ils ont un cœur, il y en a beaucoup qui ont des enfants. C'est même pour eux, Romain me dit souvent, ça lui fait quelque chose quand on sort du parloir, ça lui fait un passement au cœur parce qu'il n'a pas pu faire embrasser sa fille.
Déjà, devoir dire au revoir dans un parloir, c'est super dur, mais alors devoir dire au revoir sans se toucher, c'est...
Ah ouais. Il a dit, tu peux pas savoir comment... je rentre en cellule, je suis pas bien, quoi. Vous avez en face de moi, j'avais la petite en face de moi, elle voulait que je la prenne dans mes bras, je pouvais pas... c'est un peu pesant pour leur morale, hein.
Ah ouais, tu m'étonnes. Si jamais ils dérogent à cette règle et qu'ils touchent leurs proches et que les surveillants les voient, ils ont 10 jours de confinement. Et en fait, c'est 23 heures sur 24 en cellule, mais c'est aussi pas d'activité, ils perdent leur travail.
Ah oui, oui, oui. Après, à Moulins, quand au bout de 7 jours de confinement, ils acceptent de faire le test, ils sont positifs Covid, ils peuvent retourner dans leur cellule. Mais il y en a beaucoup qui ils en ont marre d'avoir des trucs dans le nez, quoi.
Ouais, bah ouais.
C'est comme nous dehors, quoi.
Ouais. Et les surveillants, eux, par contre, ils n'ont pas de test et pas de vaccin obligatoire.
Ah ben, apparemment, non. Apparemment, ouais. Non. Et en plus, c'est eux qui le ramènent à l'intérieur. Hein. Mm. Alors qu'ils ne nous disent pas, qu'ils ne nous rabâchent pas tous les 5 minutes. Ouais, c'est les familles quand ils disent qu'il y a un cluster au sein d'une prison. Parce que c'est bien eux qui sortent tous les soirs quand ils ont fini leur boulot, qui rentrent chez eux, qui vont en ville, qui vont dans les magasins, qui vont de partout. Et après, le lendemain, ils retournent au travail et que la veille, ils ont peut-être mangé avec 10 personnes à table ou ouais. Je ne sais quoi.
Ouais, l'impression que ça donne, tout ça, c'est que c'est quand même un bon prétexte pour juste étendre la surveillance, plus de sécuritaires, un peu moins de boulot, dans certains cas, pour les matons.
C'est ça. Déjà, c'est sécuritaire, mais ils jouent sur le sur-sécuritaire. C'est en train de devenir des mouroirs, quoi. Il y en a qui n'en peuvent plus. Hein. Je pense à tous les détenus de France, hein. Mais surtout les longues peines, qui prennent des peines de mort, on va dire. On a l'impression d'être encore plus stigmatisé vu que c'est des longues peines. Là, par rapport à la crise Covid, ça en a rajouté encore plus. Et les conditions de détention sont encore plus dures qu'avant.
Ouais, carrément. Moi, ce que j'avais remarqué aussi, c'est que, en maison d'arrêt, les gens ont des peines dites courtes. Par exemple, au parloir, il y a beaucoup plus de surveillance, mais que pour les longues peines, ils sont bien obligés un peu de leur laisser des soupapes de sécurité. Donc, en centrale, quand même, il y a beaucoup moins de surveillance au parloir habituellement. Et là, avec le Covid, ça commence à ressembler à des délires de maison d'arrêt, quoi.
Ah oui, oui, on a eu, nous, le cas avant qu'il arrive à Moulins à Arles. C'était carrément des conditions de maison d'arrêt. On avait le droit, on a le droit d'avoir parloir le vendredi, samedi, dimanche, matin et après-midi, tandis que Arles, c'était 1 heure dans tout le week-end. Avec des plexiglas qui partaient du sol au plafond. On n'arrivait même pas à s'entendre. Il y a des fois, on n'arrivait même pas à ce qu'on disait.
Ouais, ouais, je vois. Et le 1 heure par semaine, c'était sous prétexte Covid.
Ouais.
Et là, à Moulins, par exemple, ils ont repris les horaires d'avant Covid ou il y a encore des restrictions?
Non, c'est les horaires avant Covid. C'est déjà une petite avancée, c'est déjà mieux que Arles, parce qu'on peut rester un peu plus longtemps, mais c'est vrai que c'est pénible là, par rapport quand on a des enfants, de leur dire, l'expliquer. Aujourd'hui, on va au parloir, mais tu pourras pas faire un bisou à papa. Ma fille, elle me demande pourquoi j'ai été méchante. Même elle m'a posé la question si elle avait été méchante. Je crois qu'elle n'avait pas le droit de faire un bisou à son père. Pour un enfant, c'est très dur à comprendre. Je pense que le ministère, il aurait pu se bouger un peu plus. Mais quand on me demande s'il y a une note du ministère par rapport au sujet des parloirs, tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. On nous dit qu'il n'y a rien. Parce que même Romain, lui, il a demandé au gradé, c'est est-ce que le ministère a communiqué pour les parloirs, pour les reprises, on va dire, à la normale. Non, ils n'ont pas communiqué. Il n'y a rien. Je pense, parce que d'une prison à l'autre, moi, je vois un peu, j'observe un peu aussi sur les réseaux et tout, c'est au bon vouloir des directions.
Merci déjà pour avoir raconté ça, c'est important de le faire savoir.
Merci à toi, merci à tous les camarades de l'Envolée, un grand bonjour à tout le monde.
Salut Estrella, c'est l'Envolée.
Coucou Gaëlle.
Tu vas bien?
Oui, merci.
Alors, ton mari est en prison à la centrale de Saint-Maur.
C'est ça, exactement.
Actuellement, la situation pour les parloirs et les UVF, c'est laquelle?
Alors en fait, il faut savoir que depuis mars 2020, les parloirs, ils n'ont jamais repris normalement. c'est-à-dire comme avant la période Covid. Donc là, jusqu'à il y a deux semaines, les parloirs, c'était 1h30 de parloir le samedi et 1h30 de parloir le dimanche.
Ouais.
À la place de 3h et 4h l'après-midi, le samedi dimanche, si on avait envie avant, auparavant. Et en fait, le détenu est dans un box et la famille est dans un box. Il y a plus de vitres entre les deux box, mais en fait, tu peux même pas circuler si tu veux. T'as les banquettes entre, c'est vraiment pas adapté, quoi. Du coup, nous, on est moi et mes enfants, on n'est pas retournés au parloir. On allait uniquement aux UVF. Donc les UVF, ils ont repris depuis juin 2021.
Juste pour préciser, c'est des unités de vie familiale et c'est des parloirs prolongés dans lesquels on reste de 24 à 72 heures. Voilà.
Du coup, nous, en fait, on allait uniquement une fois par mois à l'UVF. Depuis le mois de juin 2021, ça avait rouvert, suite au deuxième confinement, en fait. Donc ça a repris. Au début, il me demandait de ramener un test PCR négatif. Ensuite, ça a été enlevé. Donc il n'y avait plus besoin, aucune demande de test, rien du tout. Par contre, le détenu, quand il sort de l'UVS, il a un test PCR et il est mis en quarantaine pendant une semaine, je crois, ou 15 jours, je sais plus.
Même si le test est négatif?
Je crois qu'en fait, la quarantaine, elle est faite avant le test. Ça veut dire qu'il sort de l'UVF, il est mis en quarantaine 7 ou 10 jours. Et après, ils lui font le test pour voir s'il est négatif ou pas.
D'accord.
Donc, c'est comme ça que ça se passait jusqu'à il y a à peu près début octobre. Parce qu'en fait, début octobre, il y a eu plusieurs cas de Covid à Saint-Maur. Alors là, sur le dernier test qui a été fait jeudi dernier, il n'y en a plus. Mon mari m'a dit qu'il n'y en avait plus. Mais ce qui s'est passé, c'est que début octobre, effectivement, il y a eu quelques détenus qui ont été testés positifs. Du coup, ils ont mis tout le monde en cellule, confiné. Oui. C'est-à-dire tous les détenus étaient en cellule toute la journée, excepté une heure de promenade par jour, par étage. Ça veut dire qu'ils sortaient uniquement avec les mecs de son étage, en fait. Okay. Une heure par jour, sinon en cellule toute la journée. Alors que d'habitude, c'est porte ouverte, il y a accès au sport, à la salle commune, etc. Là, c'était plus le cas du tout. Donc ça, c'était début octobre, pendant 7 jours. Ensuite, ils les ont tous retestés. À nouveau, il y a eu encore des mecs positifs. Ça veut dire qu'en fait, ils se sont passés entre détenus, en fait.
Entre détenus, par les matons.
En fait, au départ, les premiers cas qu'il y a eu de Covid, effectivement, c'est des détenus qui n'avaient pas de parloir et qui travaillent aux ateliers. Et il s'est avéré, mon mari m'a dit, qu'il y avait deux mecs qui viennent pour travailler aux ateliers, qui viennent de l'extérieur pour travailler aux ateliers avec les détenus, qui, eux, ont eu le Covid. Donc, apparemment, ce serait par eux que ce serait rentré, puisque les premiers mecs qui l'ont eu, c'était aux ateliers. Donc, il y avait ces deux mecs-là de l'extérieur qui l'avaient. Mais après, il y a d'autres détenus. Effectivement, les détenus se sont refilés entre eux avant qu'il y ait le confinement complet. Du coup, la deuxième semaine, il y avait à nouveau encore quelques positifs. Donc, ils ont encore été confinés une semaine de plus.
Parce qu'en fait, ils les testent toutes les semaines, tous les jeudis, c'est ça? Depuis octobre.
C'est ça. Donc, moi, au final, au troisième test, il y avait que deux détenus dans tout le bâtiment de mon mari qui était positif. Donc, à la base, la direction, elle avait donné comme information que s'il y avait moins de deux détenus qui étaient positifs, ça reviendrait normal au niveau de la détention. Donc, ça veut dire ils auraient à nouveau les portes ouvertes, etc. Et accès à... Il faut savoir que les détenus, ils ne travaillaient plus. Donc, tous les détenus qui dépendent de ça pour leur cantine, etc., ils n'ont plus une thune. Depuis début octobre, c'est tout fermé, en fait. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Et du coup, finalement, ça n'a pas été rouvert, même s'il n'y avait que deux cas dans le bâtiment, parce qu'a priori, il y avait d'autres cas dans la prison, et finalement, c'était deux cas dans toute la prison qu'il fallait.
D'accord.
Oui. Donc du coup, là, au quatrième test qu'ils ont voulu faire, il y a 25 détenus qui ont refusé de faire ce test PCR, puisque eux, ça fait déjà trois semaines qu'ils étaient testés, qu'ils étaient négatifs et qu'ils étaient en cellule toute la journée, quoi, excepté une heure de promenade à l'extérieur, avec le masque, en respectant les gestes barrières, etc.
Donc, du coup,
il y a plusieurs détenus qui n'ont pas voulu faire ce test.
Ok, c'est un bon...
Donc, hormis les 25 détenus qui ont passé le test, les autres, il n'y a eu aucun positif. de ce que mon mari m'a dit, là, sur les derniers tests qui a été fait jeudi dernier. Mais par contre, les 25 détenus qui ont refusé le test, du coup, ils sont à nouveau confinés à nouveau pendant 15 jours en cellule avec une seule heure de promenade par jour. Et même carrément, mon mari m'a dit qu'il leur avait fait comme du chantage pour qu'ils fassent le test PCR, en gros en leur disant que sinon ils risquaient de perdre leur travail quand les ateliers allaient rouvrir. Et effectivement, les ateliers ils ont rouvert aujourd'hui. Ils rouvraient aujourd'hui, mon mari m'a dit.
D'accord.
A priori, les détenus qui travaillent vont pouvoir retourner travailler, excepté du coup les 25 qui ont passé le test, qui ont refusé le quatrième test PCR, puisqu'ils sont confinés pendant 15 jours.
Ok. Et tu sais un peu par rapport au vaccin, s'ils sont beaucoup à être vaccinés et à être quand même.
Mon mari ne m'a pas dit, mais après, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même plusieurs détenus qui se sont plaints, déjà avec lui à son étage, mais aussi dans notre bâtiment, par rapport justement aux conditions d'accès aux UVF depuis que la prison est considérée comme cluster.
Ouais.
Parce que non seulement ils ont remis les vitres au parloir depuis 2 semaines à peu près, donc ça veut dire que le détenu il est dans un box et la famille est dans un autre box, avec juste une toute petite vitre au milieu, quoi, où on peut se voir, mais à aucun moment se toucher.
Et avec des problèmes pour s'entendre en plus.
Exactement. Et pour les UVF, en fait, ils ont mis comme condition qu'il fallait que le détenu soit vacciné et qu'il présente 2 tests PCR négatifs.
Alors ça, c'est quoi cette histoire de 2 tests PCR négatifs? Ça veut dire quoi?
Je sais pas. J'ai pas compris. J'ai pas eu l'info en plus.
Ouais.
Après, ce que mon mari m'a dit, c'est que, étant donné qu'il n'est pas vacciné, il veut bien se faire tester, faire un test PCR avant d'aller à l'IVF pour vérifier qu'il a rien, quoi. Mais ils ont refusé. Ils laissent l'accès aux UVF uniquement aux détenus qui sont vaccinés.
D'accord, donc vous avez un UVF de prévu bientôt, donc là tu sais pas si tu vas y avoir droit ou pas.
Bah c'est ça, c'est dans 2 jours normalement l'UVF, et encore aujourd'hui j'ai appelé la prison et le surveillant que j'ai eu, il m'a dit que ça allait certainement être rétabli comme avant qu'il soit considéré comme cluster, vu qu'il n'y a plus de cas, mais il sait pas quand, donc étant donné que nous on a UVF dans 2 jours, il pensait que ça allait être trop tôt pour que ce soit rétabli comme avant, quoi.
Ok, bah de toute façon, vu qu'ils ont un peu du mal à revenir en arrière dès qu'ils enlèvent un peu des droits et des libertés, effectivement, il se peut qu'ils traînent un peu la patte.
C'est ça.
Et donc,
on n'a pas l'habitude, quand c'est pour redonner nos droits, on n'a pas l'habitude que ce soit fait rapidement.
Ouais, c'est ça, parce que du coup, en prison, quand même, ce qu'on se dit là depuis le début de cette affaire, c'est que quand même dehors, il y a pas mal de moments où on a retrouvé semblant de vie un peu normale entre différentes vagues, quoi. Et en prison, en fait, on peut considérer qu'il y a une grosse vague qui dure depuis 2 ans, avec du coup tout ce qui est suppression de temps de parloir, suppression d'activité, de travail, de tout, et très peu de moments de répit, quoi. Toi, sur 2 ans, y a toute une période où t'es pas allé au parloir pendant des mois, pendant 8 mois.
Ah ben moi, c'est simple, Gary, mon fils, il est né en juin 2020. Il a vu son père 6 fois. 6 fois en un an, presque et demi.
Bah ouais, mais du coup, la machine arrière, ils la font pas. Parce qu'évidemment, pour eux, toutes ces histoires-là, au-delà du cluster et du côté sanitaire qu'ils mettent en avant, c'est surtout que ça fait moins de boulot, quoi.
Bah c'est ça, moins de familles à rentrer, moins de détenus à contrôler, moins de...
C'est ça. Donc les journées doivent être un peu plus confortables. Donc ils ne doivent pas être pressés de revenir en arrière, d'ouvrir les portes, de faire des activités, de faire bosser les mecs, de gérer les cantines derrière.
C'est ça, exactement.
Ok. Donc en fait, ouais, vraiment, bah, c'est un peu la même chose qu'à l'extérieur. Il y a quand même cette espèce de chantage à la vaccination. On te pourrit la vie si t'es pas vacciné, quoi.
Ben, déjà... Il me semble qu'ils avaient fait une remise de peine pour les détenus qui se vaccinaient.
Ouais.
Ils placent ça déjà à l'échelle nationale. Mais là, clairement, là, en tout cas, là, par rapport à... Depuis que... Avant, c'était pas plus le cas que ça. Je sais qu'il y a quelques détenus qui s'étaient pas vaccinés. Mon mari m'avait dit, mais il m'a pas dit qu'ils avaient plus sensibilité que ça ou quoi que ce soit.
Ouais.
Mais là, oui, de mettre... L'accès aux UVF uniquement pour les détenus vaccinés, c'est sur quoi ceux qui ne sont pas vaccinés ont le droit de voir leur famille, en fait ou...
Et lui, il fait pas les chiffres, mais à l'intérieur, il est pas tout seul à pas être vacciné. Il y a quand même des gens autour de
lui. Ah bah oui, il y a plusieurs personnes qui sont pas vaccinées. Après, je lui ai même pas demandé s'il y avait beaucoup de monde qui était vacciné ou pas. Mais je pense que vu que là, il est un peu dans le souci par rapport aux UVF, c'est certainement des gens qui sont pas vaccinés. S'il le ferait,
oui,
il pourrait y avoir accès, quoi, sans problème.
Ouais, c'est sûr. En tout cas, sur les 25 qui ont refusé les tests PCR, là, parce qu'on leur donnait donc pas ce qu'on leur avait promis, en leur disant que s'il n'y avait plus de cluster, ils pourraient sortir. Faudrait que tu nous donnes des nouvelles quand on aura par ton mari pour voir à la sortie du confinement, de leur confinement, comment ça se passe pour eux.
S'ils ont retrouvé leur travail ou pas.
J'essaierai
d'avoir les infos.
Ouais. Ouais, parce que bon, déjà 15 jours de confinement, en fait, autant dire 15 jours de mitard, mais en cellule, quoi. Pour avoir refusé un test PCR qu'on leur fait faire toutes les semaines alors qu'ils sont négatifs et qu'il n'y a plus de cluster, quoi.
Ben, c'est ça fait 3 semaines qu'ils sont négatifs, ils voient plus personne à part les mecs de leur étage à un moment donné.
On a reçu une lettre aussi à l'envolée d'un prisonnier de Saint-Maur qui disait ce que tu disais là, qui disait les premiers cas de Covid, ils sont très très probablement arrivés par des intervenants ou des surveillants. Parce qu'en tout cas, c'est arrivé à un moment où sur des gens qui n'avaient pas de parloir et qui n'avaient pas d'extérieur. Donc ceux qui empathisent, c'est toujours les familles, alors que en fait le virus il circule d'une manière bien plus complexe que ça et assez inévitable de toute façon. Donc
non, mais pire que ça, ça veut dire que là ils testent toutes les semaines les détenus, mais au début en tout cas quand ils les avaient testés au moins 2 ou 3 fois, Christophe me disait que il n'avait même pas testé les surveillants.
Ouais.
Donc ça veut dire que en gros il y a que les détenus qui peuvent l'attraper, ou c'est quoi le délire?
Et les surveillants, ils n'ont pas l'obligation vaccinale. Pas d'obligation vaccinale, pas de test, et puis...
C'est ça, exactement.
Et puis j'imagine qu'ils n'ont pas toujours le masque en détention, en plus.
Non, bah justement, c'est ce que mon mari me disait, là, qu'il y avait des détenus qui étaient énervés, là, par rapport à tout ce qui se passait, et qui, justement, voulaient, en gros, balancer des surveillants qui portaient pas forcément le masque systématiquement, alors que normalement ça leur est imposé, quoi.
Ouais.
Parce que a priori pas tout le monde est super strict là-dessus.
Bah oui, on imagine bien les mecs qui sont là, enfin bon, ouais, on voit bien comment ça se passe partout. C'est ça, si on regarde juste côté chacun dans son boulot ou quoi, les gens ils essayent de le mettre le moins possible pour respirer tout ça, sauf que là ils mettent en danger des tonnes de gens et que par ailleurs à ces gens-là, à ces prisonniers-là et ces prisonnières, on leur interdit de voir leurs proches.
C'est ça.
Ils doivent se taper au quotidien des rapports, doivent prendre des risques avec des gens qui sont leurs bourreaux, et ils peuvent pas les prendre avec leurs propres proches ou décider avec qui ils ont envie de prendre.
C'est ça. Ce risque, c'est ça, exactement.
En tout cas, j'espère que, tiens-nous au courant pour ton UVF.
D'accord.
Combien de temps ils maintiennent cette histoire de vaccination ou pas, là.
D'accord.
Voilà. Et puis oui, quand tu auras des nouvelles aussi pour les 25, les 25 rebelles des tests PCR.
Ouais, mais c'est surtout là par rapport à la reprise du travail, comment ça va se passer pour eux. Est-ce qu'une fois qu'ils sortent de leur confinement, ils vont avoir leur place?
Ouais, ou bien ils reprennent pas le boulot et ils doivent se démerder avec les 20 balles que donne l'administration. Ok. Eh ben merci pour les infos. Bon courage.
Merci, Gaëlle. Bon courage à tout le monde.
Ça marche. Salut.
Salut. I got the blues, but I don't mind. All I have to do is get to you, and then I feel just fine. Yeah.
Vous êtes bien de retour sur l'émission L'Envolée, c'est sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et rediffusé dans plein de radios locales. Voilà. On a commencé l'émission en oubliant complètement de donner tous les contacts et tout, donc vous pouvez nous appeler donc, en direct pendant l'émission au 01 40 05 06 10 et pour nous appeler tout le reste de la semaine, c'est le 07 52 40 22 48. Pour nous écrire, vous devez connaître un peu l'adresse, mais c'est l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Et puis vous pouvez aussi nous contacter sur tous les réseaux sociaux, par mail et tout. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on a fait un nouveau journal. Il va peut-être pas arriver tout de suite, mais en tout cas, voilà, faut pas hésiter. Et on rappelle, c'est gratuit à l'intérieur. Donc n'hésitez pas non plus à abonner vos proches qui sont à l'intérieur. Donc voilà. Donc là, on va discuter un peu ce qu'on avait dit. Donc on est avec. Déjà, il y a des copains qui nous ont rejoints. Voilà. Salut Vanessa.
Bonjour.
Salut Castille.
Salut, salut.
Et voilà. Et donc on va un peu parler des gilets jaunes à Amiens et puis aussi un peu parler de toi. Mel, tout d'abord, ouais, toi, tu me disais tout à l'heure là que t'étais arrivé dans les gilets jaunes en étant primo manifestante. Est-ce que tu peux expliquer un peu, comment petit à petit en fait tu t'es retrouvé
Ouais, en fait, moi, j'avais jamais manifesté réellement. Pas que j'étais pas sensible, mais je savais pas si j'avais ma place ou j'avais fait que les manifestations contre le Front National dans ma ville. Mais jamais je m'étais intéressée à un autre mouvement social. Nuit debout, je suis passée à côté. Il y a plein de mouvements sociaux comme ça, je suis passée à côté. À la base, je travaillais dans un bar, tabac, presse, PMU. Et ce qui me convenait très bien, parce que c'était au sein de mon quartier, que j'aimais ma clientèle, c'était vachement chouette. J'étais très attachée à ma clientèle. Et il est arrivé à un moment donné dans ma tête, j'ai basculé et j'avais beaucoup de mal à vendre tout ce qui était Française des Jeux. C'était les premiers paris sportifs et c'était très problématique pour moi de vendre ça, de vendre les PMU. Et donc je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'avais plus envie de ça, quoi. J'avais plus envie de participer à cette arnaque de la Française des Jeux qui remplit les caisses. Qui remplissait les caisses de l'État parce que ça a été vendu entre-temps, mais j'avais plus envie de participer à ça. Et mon patron n'arrêtait pas de dire « Ouais, toi, t'es travailleuse sociale. » Il commençait vraiment à me détester. Du coup, moi, j'ai une relation particulière avec les travailleurs sociaux. Je suis issue d'une famille qui n'avait pas la cuillère d'or dans la bouche ni d'argent. Et du coup, les travailleurs sociaux s'étaient vus un peu comme l'ennemi, quoi. De ceux qui prenaient les enfants et qui les retiraient des familles. Du coup, j'ai eu du mal à assumer le fait de vouloir être travailleuse sociale. Donc, j'ai passé les concours, je les ai eus. J'avais ma date de rentrée à l'école, j'assumais toujours pas. Donc, je suis passée par mon petit frère en lui disant, voilà ce qui m'est arrivé. Il m'a dit, ouais, tu déconnes. Et au final, ma mère m'a dit qu'elle était très fière. Moi, je pensais... voilà quoi. Je pouvais changer quelque chose dans le quotidien des gens en étant travailleuse sociale. Et donc, je suis diplômée en 2016. Et là, j'ai un poste dans un centre social, dans un quartier prioritaire de la ville. Et arrive en novembre les annonces du gouvernement qui parlent des réformes de la CAF et aussi une réforme du statut de handicap. Et du fait de ce fait, j'ai plein de quoi. J'ai une permanence administrative qui se remplit, qui ne se désemplit pas. Elle se désemplit pas de gens qui me disent qui savent plus comment faire parce que leurs revenus ont baissé et que déjà que c'était pas la joie. Et ben là, en fait, à l'approche de Noël, ils me disent soit on fait un crédit à la conso, soit il y a pas de Noël quoi. Et moi, j'ai quitté ce monde là pourri du capitalisme, de la Française des Jeux. Et je me retrouve avec des gens qui me disent qu'ils vont devoir faire des crédits à la conso pour acheter un jouet à leur gosse à Noël, quoi. Et tout ça à cause d'une réforme. À cette époque-là, mon mari et mon meilleur ami, eux déjà, ils étaient vachement ouverts au mouvement Gilets jaunes. Moi, j'étais un peu plus en retrait. Je regardais de l'extérieur, j'avais peur de ce mouvement. Dans notre région, on a eu une séquence pas très cool où des gilets jaunes ont fait un truc pas très cool avec des migrants. Et du coup, je regardais de l'extérieur.
On peut le décrire parce que c'est plus qu'un truc pas très cool, c'est un truc complètement affreux.
Dégueulasse,
donc,
ouais.
Dont on avait parlé hein, ici, mais qui était le fait qu'ils ont balancé des migrants à des gendarmes voilà, pour qu'ils soient renvoyés. Et ça faisait partie des premiers trucs au début qui faisaient qu'il y avait une certaine crainte sur ce milieu. Quoi.
Carrément. Carrément. Ce qui a sauvé le truc, c'est le comité Adama qui fait un appel à rejoindre la manifestation du 1er décembre 2018. Et là, quand le comité Adama fait cet appel et qui dit « Nous, dans les quartiers populaires, ça fait 20 ans, mais en vérité, c'est pas 20 ans, hein, ça fait 60 ans, ça fait depuis la création des quartiers populaires, bon, enfin bref, qu'on est gilets jaunes. » Et là, je me suis dit « Ouais, moi, je suis issu des quartiers populaires, il y a un truc qui est ouvert, là. » Et en effet, ils ont raison, quoi. Il y a vraiment quelque chose, quoi. On est vraiment gilets jaunes dans les quartiers populaires. Et au vu des revendications qui étaient quand même juste magiques, quoi, on militait contre toutes les injustices sociales, fiscales, climatiques. Quel mouvement social militait pour toutes les injustices ? Eh ben, je me suis dit « Ok, on y va. » Ok, on y va. Et donc, je m'en vais avec mon mari et mon pote, 1er décembre 2018, sur les Champs-Élysées, quoi. C'est peut-être la troisième ou quatrième fois que je vais sur Paris, autre que dans des musées. Moi, cette place, je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'est peut-être cliché, hein, je suis une meuf d'Amiens. Moi, Paris, ça me faisait peur, j'avais peur du métro, quoi, je ne connaissais pas, c'est con. Et du coup, pour moi, c'est ouais, la découverte. Quoi. Moi, j'allais à la grosse manifestation qu'avait eue Chirac au moment de l'élection Chirac-Le Pen. Quoi. J'avais ces images-là, quoi. Moi, j'allais à ça. Quoi. Et donc, on arrive. Et puis, c'est, quoi, c'est, cette journée-là, elle est particulière. Quoi, parce qu'on ne comprend pas trop. Il y a des mecs qui ont des matraques. Quoi. J'ai une image qui me revient souvent en tête. C'est, il fait nuit et il y a un mec qui massacre une nana au sol. On pense que c'est un flic. Il n'a pas de brassard, mais il a une matraque. Et donc, on les sépare. Quoi. Il y a plein de scènes comme ça du 1er décembre qui arrivent tout le temps dans nos têtes. Je pense que c'est une date un peu particulière. Et donc, voilà. Quoi. Moi, tout le début des manifestations, gilets jaunes, je suis sur Paris. Sur Paris. Le premier mois, essentiellement. Après, moi, je suis amiénoise. Et du coup, sur Amiens, il y avait déjà le mouvement gilets jaunes. Quoi. Il y avait un beau mouvement gilets jaunes sur Amiens. Mais je n'avais pas les informations, c'est pour ça que j'allais sur Paris. Enfin bref. Et dans le courrier Picard, je vois qu'il y a des gilets jaunes qui ont été interpellés, qui passent en comparution immédiate. Et donc, fille de quartier populaire, quand on a un de nos gars qui passe au tribunal, et ben, tout le quartier se déplace au tribunal. Donc, bêtement, non, mais voilà, quoi. Forte de ça, je m'en vais au tribunal. Pour soutenir les camarades gilets jaunes. Et là, je rencontre, c'est la première fois que je rencontre des manifestants gilets jaunes. Après, ouais, il y avait les manifestations des femmes. Quoi, non, en fait, je mens. Je manifestais déjà avec les femmes gilets jaunes le dimanche, mais je faisais pas les manifestations du samedi. Je faisais samedi Paris et dimanche Amiens. En fait, on était une... Peut-être que Isaac, il peut, comme mes souvenirs s'embrouillent.
Oui, c'est pas que tu mens, c'est juste qu'en fait, que, ça a été ouais. Une période aussi tellement pleine de
riche,
vie
ouais.
et de lutte qui fait qu'en fait, c'est normal de s'en mêler un peu ouais. Dans les dates, mais c'est pas très très grave. Ce qui compte, c'est l'ambiance aussi de l'époque. Enfin voilà, où t'as l'air quand même de décrire un sacré souffle de liberté, quoi,
ouais.
et d'énergie qui s'est développée. Et puis, ouais, à Amiens, vous en parliez un peu. Vous avez tout de suite voulu grave élargir, c'est ce que tu disais un peu au début, quoi. Et donc, vous allez vous rapprocher de plein de gens. Vous me disiez que dès le 8 décembre, à Amiens, il y a une manif avec les écolos et avec la CGT. Et tout. Enfin, est-ce que vous pouvez raconter un peu cette volonté que vous avez eue direct?
Ouais. Alors, du coup, enfin voilà. En fait, il y a plusieurs. Enfin voilà, moi je viens pas. J'ai pas le même parcours que Mélanie. Moi, je viens du milieu militant. Ça fait une quinzaine d'années que je fais. C'est Isaac hein, qui parle. Ça fait une quinzaine d'années que je fais les mouvements sociaux sur Amiens. Et on était beaucoup à être passés à côté du démarrage des gilets jaunes, en fait. Et il y a deux événements dont on a été quelques-uns à être marqués. C'est d'abord les émeutes à Paris et les attaques contre les quartiers des riches. Parce qu'en fait, le mot qui tournait un petit peu dans nos milieux, c'était que les gilets jaunes, c'était des gens qui ne savaient pas pourquoi ils se battaient, qui n'avaient pas conscience de ce qui se passait vraiment, qu'un mouvement anti-taxe, ça ne pouvait pas être un mouvement d'émancipation et un mouvement progressiste. Et voilà, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, des gens qui vont directement sur les lieux de pouvoir, ce qui représente le plus la société d'abondance et le capitalisme et qui foutent le feu, c'est des gens qui savent quand même vraiment où ils vont et qui ont compris quelque chose qu'on était beaucoup à avoir oublié pendant longtemps. Et ça a été un premier choc. Et puis après, il y a eu aussi l'appel du comité à Damas, qui fait qu'on était quelques militants à se pointer au grand rassemblement Gilets jaunes qui était organisé sur Amiens. C'est-à-dire, c'était en général les mercredis sur les parkings des supermarchés, des grandes réunions collectives où on décidait ce qu'on allait faire le samedi. Et en fait, très vite sur Amiens, c'est une ville qui est difficile en termes de mobilisation. C'est un lieu où on a subi la désindustrialisation pendant plus de 20 ans. Il y a un taux de chômage qui est très élevé. Il y a une mentalité qui est issue de ça, qui est très difficile. Enfin voilà, là, il y a beaucoup de gens qui sont très fatalistes et qui n'ont pas beaucoup d'espoir dans la lutte parce que ça n'a pas souvent payé dans l'histoire de la ville. Et voilà, donc ce qui fait que sur Amiens c'était un peu compliqué et qu'une des premières solutions qu'on avait trouvées pour ramener un peu de monde aux manifestations, c'est de profiter des contacts que nous on avait au sein du mouvement politique habituel, syndicats, organisations, tout ça. Et une des premières dates qu'on pose ensemble avec les Gilets jaunes d'Amiens et les organisations politiques traditionnelles, c'est le 8 décembre. Et en fait, on organise une marche dans le centre-ville d'Amiens qui est co-organisée par les Gilets jaunes, par les syndicats de la ville et par les organisations écologistes. Et c'est une manifestation qu'on organise de façon commune, c'est-à-dire qu'on convoque la presse tous ensemble, on fait une prise de parole commune, enfin voilà. Il y avait vraiment déjà une ébauche de ce qu'on a commencé à tracer après. Après, voilà, il y a un mois de décembre sur Amiens qui est très dur en termes de répression, c'est-à-dire que c'est des manifestations où on voit apparaître le flashball, les grenades de l'IF4, les canons à eau, des blessés graves déjà sur les premières manifestations. Ce qui change, parce que voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, dans ce qui est de la lutte politique directe, manifestation, comme ça, on n'avait pas l'habitude de ça. Et à la suite de ça, les premières personnes qui étaient en charge des organisations des manifestations sur Amiens se retrouvent après une grosse manifestation le 29 décembre à Amiens qui était très combatif par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître dans la ville. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent judiciarisés. Et on se retrouve avec quelques gilets jaunes qui ne veulent pas lâcher le steak à se retrouver sur les parkings où avaient lieu les réunions habituelles. Et là, on remonte un groupe de gilets jaunes pour relancer les samedis sur Amiens parce que ça faisait deux samedis qu'il n'y avait plus rien. Et on cherche à approfondir les liens qu'on avait commencé à créer avec d'autres organisations. La réflexion qu'il y a derrière, c'est qu'à ce moment-là, chez beaucoup de gilets jaunes, on se vit comme le peuple. C'est-à-dire qu'il y a cette masse de travailleurs, de gens pauvres qui sont en sommeil, c'est les gens qui subissent habituellement directement toutes les réformes économiques qu'on a bouffées depuis plus d'une vingtaine d'années. Et là, enfin, il y avait un bloc compact de ces gens-là qui étaient prêts à se lever contre la condition qu'on leur faisait. Et voilà. Donc nous, on s'est dit, si les gilets jaunes, c'est vraiment le peuple, il faut qu'il y ait tout le monde dedans. Donc voilà, la stratégie de notre groupe Gilets jaunes, ça a été de chercher à mener le plus possible des alliances et de créer des ponts avec les différentes luttes qui existaient en France. Voilà, donc sur tout notre trajet, nous, on s'est associés tout d'abord aux luttes contre les violences policières et aux luttes des quartiers populaires, mais aussi aux luttes écologistes. On avait une bonne relation avec les syndicats, on a soutenu les enseignants dans leur combat au mois de mars. On était proche aussi de tous les collectifs de lutte qui se faisaient sur Amiens, notamment à l'époque, les Pinel en lutte, qui étaient dans un combat pour l'amélioration des conditions de travail à l'hôpital. Et on voit à quel point c'était important de se mobiliser pour ça aujourd'hui. Et voilà, on a passé notre temps.
Les sans-papes aussi.
Ouais, c'est ça. Aussi rapidement, on s'associe avec une association qui s'appelle la Boîte sans projet, qui est très présente sur Amiens et qui fait un travail social d'accompagnement des exilés et d'hébergement, pour tout ce que la préfecture ne veut pas faire dans la ville. Et en fait, avec les Gilets jaunes, on s'est saisi de ça. Et en fait, on a, avec des collectifs de squatteurs, avec des collectifs anarchistes, avec la Boîte sans projet, on a participé à l'ouverture d'un squat qui s'appelait le Ministère. Et c'était un squat qui avait vocation à héberger les personnes qui étaient à la rue, qu'elles soient exilées ou pas, et qui se voulaient aussi comme un lieu de lutte.
Voilà. On s'est substitué au 115, parce que la préfète, à ce moment-là, elle communiquait en disant que s'il n'y avait pas de place au 115, c'est parce que les migrants se maintenaient sur le territoire. Et du coup, à un moment donné, on a dit, il faut qu'on se substitue, on n'a pas le choix. Donc, à un moment donné, on a même dû recueillir une famille qui dormaient à la gare, qui n'avaient pas de situation d'urgence, qu'on a dû mettre à l'abri au ministère. Il y avait femmes, enfants, dont une femme atteinte d'un cancer généralisé. Et le 115 refusait de les prendre en charge. Et donc, ça a été aussi la force de notre collectif Gilets jaunes, c'est qu'on s'est emparé de toutes les luttes transversales à partir du moment où on était Gilets jaunes et qu'on luttait contre toutes les injustices. À partir du moment où tu vivais une injustice, et ben ça nous concernait. Et on y a été à fond, quoi.
Ce qui était intéressant pour nous dans la séquence, c'est qu'on vit dans une région, c'est Amiens, c'est la Somme. C'est une région qui est très pauvre, c'est une région populaire même dans les campagnes autour de la ville. Et c'est une région où dans les campagnes, il y a un fort vote Front National. Mmh. Et pour nous, c'était aussi l'occasion de pouvoir faire de la politique avec beaucoup de gens pour qui c'était la première fois qu'ils en faisaient, qui avaient comme rapport à la société en général simplement ce qu'ils pouvaient recevoir des médias traditionnels et qui sont aux mains des grands groupes capitalistes. Et en fait, bah, c'était une façon de faire une démonstration politique aussi en disant, bah, voilà, on peut mobiliser les classes populaires de Picardie sur des bases antiracistes, d'accueil des exilés, anticapitalistes, et que voilà, et que c'était faisable, que ça marchait, que les gens sont intéressés et ont envie que ces choses-là arrivent. Et c'était important pour nous de pouvoir le montrer aussi politiquement au travers des Gilets jaunes.
Et d'ailleurs, cette manif du 29, quand tu la décrivais, il y avait énormément de ça, parce que donc vous êtes retrouvés dans un quartier. Toi, à ce moment-là, t'es pas encore.
Non, moi, je suis sur Paris. Ouais.
Alors pourtant, qu'ils viennent chez toi.
Ouais, ils sont dans mon quartier, les enfoirés.
Sans te prévenir.
Sans me le dire. Ma belle-mère, elle me téléphone pour me dire il y a les gilets jaunes, qu'est-ce que je fais? J'ai le bébé, il a un t-shirt jaune, les gilets jaunes, ils me disent le bébé avec nous. Et du coup. Ils étaient là, quoi.
C'est ça.
Et tu décris qu'en fait, tu vois des gens, ce qui est un peu une image d'Épinal de la ruralité, ça fait chier de le présenter comme ça, mais tu disais habillés en chasseurs et en pêcheurs, mm-hmm. qui se retrouvent au milieu du quartier avec les petits. Et là, il y a alliance, quoi.
Il y a une fusion qui a eu lieu vraiment à ce moment-là. C'était assez impressionnant. En fait, ce jour-là, c'est vraiment le jour de la colère à Amiens, quoi. C'est-à-dire que le samedi dernier, le samedi précédent, il y a eu 25 arrestations à Amiens, ce qui, dans la journée hors Paris, représente le record national d'arrestations pour ce samedi de Gilets jaunes. Il y a eu plusieurs blessés graves. C'était une journée qui était très violente. Et en fait, il y avait vraiment une volonté d'avoir une manifestation le samedi suivant qui allait répondre à la hauteur de ce qu'on avait subi la semaine passée. Vu les événements, la préfecture a évidemment interdit la manifestation, ce qui nous a encore plus mobilisés et encore plus agacés. Et ce qui fait qu'on est arrivé massif avec la volonté d'entrer dans le centre-ville. Et quand on s'est rendu compte que c'était impossible, on s'est dirigé vers le quartier nord d'Amiens.
Vous avez été poussé par les flics
Voilà, on a été poussé par la police. C'était une ambition des Gilets jaunes de passer par le quartier nord depuis quelques samedis. Et là, du fait de l'appareil répressif qui s'était mis en place, c'est une possibilité qui s'est ouverte et qu'on a saisie. Et en fait, au moment où on rentre dans le quartier nord, vraiment dans le cœur du quartier, il y a un moment de surprise, en fait, d'étonnement mutuel, parce que c'est des gens qui, le quartier nord, le seul rapport qu'ils avaient avec ça, c'était ce qu'on en disait à la télévision. Et c'est une image très dégradée du quartier qui est véhiculée à travers les médias et les politiciens. Et enfin, les gens qui vivent hors Amiens pouvaient avoir un aperçu de la réalité en face. Et en fait, il y a cette surprise, on arrive à 400, 500 sur la place avec des gens de la campagne Picarde. On se retrouve au milieu de la place centrale d'Amiens Nord. Et en fait, il y a une sorte de fusion qui se crée. Il y a une énergie incroyable qui se débloque tout de suite. Et en fait, tous les gens qui étaient présents, enfin une grosse partie des gens qui étaient présents autour de nous, rejoignent la manifestation. D'autres gens du quartier commencent à se mêler à nous. Et ensuite, pendant toute la soirée, on va tenir tête à la police tous ensemble et avec une solidarité qu'on avait rarement vue pour des gens qui ne se connaissent pas comme ça sur Amiens.
Et c'est cool.
C'était assez beau à vivre.
Pendant tous ces mois-là, vous avez lutté, et donc vous faites toujours les allers-retours entre Paris et puis Amiens et tout ça. Donc y a un moment qui est un peu important aussi pour vous, que vous décriviez. Ça a été une rencontre qui, dans mes souvenirs, s'est passée à Saint-Denis, autour des Gilets jaunes, des quartiers populaires, où il y a pas mal le comité Adama et tout. Je sais pas si vous vouliez un peu en parler de ce truc, mais en tout cas, c'est un truc qui était un peu marquant.
Ouais, moi, le dimanche, le samedi, je milite sur Paris et le dimanche, je milite sur Amiens avec les femmes parce que. En fait, il y avait un joli groupe qui s'appelait les Ficelles Picardes et qui avait à cœur de manifester, mais c'était des femmes dont les maris allaient manifester les samedis et qui n'avaient pas de moyens de garde pour leurs enfants. Et donc, l'idée, c'était que les maris gardaient les enfants le dimanche pour leur permettre à elles aussi de militer. Et c'était un chouette groupe. Et donc, c'était tous les dimanches. Et quand le comité Adama avait fait cet appel à la Bourse du Travail de la Seine-Saint-Denis, quartier populaire, gilet jaune, j'ai proposé aux copines, quoi, j'aurais demandé si, pour une fois le dimanche, on pouvait aller là-bas plutôt que de manifester. Pas que manifester, c'était pas chouette, mais quoi, moi, étant super sensible aux violences policières dans les quartiers populaires ou même aux quartiers populaires, tout simplement, de base, ben, j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait là-bas, le comité Adama, ce qui pouvait en sortir et comment c'est mes deux univers, donc le gilet jaune et le quartier populaire, pouvaient cohabiter l'un avec l'autre. Et donc là, on part avec des copains à la Bourse du Travail. Et ouais, c'est magique. C'est magique. C'est magique. Quoi, c'est des instants, je pense, quoi, j'espère pouvoir revivre un jour, mais je ne sais pas. Mais de sensibiliser des gens qui sont tellement loin, quoi. Ouais, c'est chouette.
Dans la voiture sur le retour, on a une camarade qui disait, bah voilà, enfin là, elle disait, j'ai 50 ans passé et j'ai l'impression que je suis passé à côté de tout ça pendant 50 ans et qu'aujourd'hui, je commence à me rendre compte de toute une partie de la société, des expériences de vie que j'imaginais même pas et que je commence à comprendre et à saisir et à comprendre aussi pourquoi du coup c'est important de faire des liens entre, enfin voilà, les différentes répressions qui peuvent exister selon qu'on habite à la campagne ou dans un quartier populaire. Et ouais, pour ça, c'était très important. Et du coup, ça a apporté ses fruits parce qu'on a vu que tout au long du mouvement Gilets jaunes, la question des violences policières et la question du lien avec la lutte des quartiers populaires, elle s'est faite tout au long du mouvement. Et donc, c'était des intuitions intéressantes qu'il y a eu par les camarades à l'époque.
Juste aujourd'hui, on peut dire que tout ça, ça se concrétise autour du réseau d'entraide, vérité et justice, où des familles qui ont été victimes de meurtres de la part des policiers qui sont souvent issus des quartiers populaires, parce que pas que. Parce que la police ne tue pas que dans les quartiers populaires. Mais par exemple, on a le collectif Clodo qui est mort sur l'île de La Réunion. Et du coup, en Guadeloupe. Et du coup voilà quoi, la police tue, viole, mutile, assassine. Partout. Et donc, voilà, quoi. Ça, c'est, cette chose-là, elle est concrète dans ce réseau.
Bon, on va continuer à en rediscuter tout ça un peu, parce que donc, c'est aussi le mouvement des Gilets jaunes, comme ça a pas mal été développé là, quand même un des mouvements qui a été les plus réprimés. On parle très régulièrement de la répression policière. Il y a eu aussi une répression judiciaire qu'on a beaucoup essayé de témoigner ici. Mais donc là, on laisse la parole à Elsa qui va présenter un petit son et puis on se retrouve dans 3 minutes.
Salut, c'est Elsa et c'est un message, petite dédicace pour Libreflow. Il y a quelques semaines dans une émission, ils ont lu une de tes lettres où tu disais que tu apprenais le kurde. Ça m'a fait penser à un livre de comptines qu'on écoute avec mon gamin et qu'on aime bien, où il y a des comptines en kurde. Alors je me suis dit, bah tiens, je t'en fais écouter une. J'espère que tu as reçu ma lettre dans laquelle je t'envoie des photocopies, des très belles pages de ce livre. Voilà, et ben, je me suis dit que voir des jolies choses et écouter des jolies choses en kurde, ça te ferait peut-être bien plaisir. Si tu kiffes, n'hésite pas à faire passer le message, je t'en ferai passer d'autres. Et puis bien sûr, si tu veux écouter des autres styles de chansons et pas forcément des comptines pour enfants, n'hésite pas à le dire. Et bah pareil pour tout le monde, hein. N'hésitez pas, s'il y a des chansons que vous avez envie d'écouter, vous pouvez demander à l'équipe, ça se trouve, ils vous les trouveront. Voilà, et ben des pensées à tout le monde, force et courage, en particulier aux personnes qui sont à l'isolement, et puis à tous, à toutes et aux proches. Salut, à la prochaine. Donc je vous laisse avec une petite chanson qui s'appelle Tessier. Excusez-moi pour l'accent nul, je ne sais pas parler kurde. Ça parle de quenouille et de filer la laine. Voilà. La 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 la
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'émission L'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Je vous rappelle, pour nous appeler, donc quand on est en direct, c'est le 01 40 05 06 10. Pour nous appeler tout au long de la semaine, c'est le 07 52 40 22 48 et vous pouvez toujours nous écrire à l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, et aussi par mail et tous les réseaux sociaux. Et puis on est aussi en podcast sur un bon nombre de plateformes. On voulait continuer, on n'aurait pas dû couper tout de suite cet échange là sur un moment important qui s'est passé le 25 mai, une grosse manif à Amiens.
C'est ça. Alors, c'est le 25 mai, ça arrive quand même dans une séquence où le mouvement Gilets jaunes, il commence un peu à retomber. Il y a eu les deux ultimatums de mars et d'avril qui ont été à la fois une réussite pour les Gilets jaunes parce qu'on a réussi à faire la démonstration qu'on pouvait reprendre Paris, et notamment la place de l'Arc de Triomphe à la police, malgré les nouveaux dispositifs de police qui étaient mis en place et la politique surrépressive qui était présente.
Et pour rappel, c'est ce jour-là que le Fouquet...
C'est ça, 16 mars, exactement, que le Fouquet s'est brûlé.
Où il y a des couteaux qui ont été récupérés, réappropriation de couverts.
Mais de toute façon, c'est dégueulasse la bouffe là-bas. Et si je peux proposer, il vaut mieux tester le Fouquet du rond-point de Valenciennes, qui est bien meilleur que celui de Paris. Et où on est mieux reçu, on mange beaucoup mieux.
Carrément.
Et je salue les copains de Valenciennes, j'en profite. Et ouais, vas-y, excuse-moi.
Non, mais donc cette manif du 25, elle est importante pour ça et aussi parce que vous allez réunir vraiment beaucoup, beaucoup de personnes.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le point culminant de tout ce qu'on a voulu porter au travers des Gilets jaunes. C'est-à-dire que le 25 mai, on fait des rencontres au travers des Gilets jaunes, de gens que je salue aujourd'hui qui se reconnaîtront. Et on a une idée commune qui est que c'est le prochain ultimatum qu'on va faire, il ne faut pas le faire à Paris, mais il faut le faire à Amiens. Parce qu'à Paris, samedi après samedi, les techniques de maintien de l'ordre, elles s'améliorent, elles se perfectionnent. C'est de plus en plus compliqué de prendre la rue et de la tenir. Et du coup, on se dit, l'intérêt d'Amiens, c'est la ville d'où vient Emmanuel Macron. C'est là qu'il a lancé sa campagne. Et on choisit collectivement la date du 25 mai parce que c'est la veille des élections européennes qui ont lieu le dimanche 26 et que c'est une journée où les politiciens n'ont pas le droit de s'exprimer dans les médias. Donc on savait que ce jour-là, on allait pouvoir dire ce qu'on voulait, porter le message qu'on voulait, qu'on ne serait pas emmerdé, qu'on ne serait pas parasité et qu'on voulait aussi montrer que la politique, ça ne se fait pas dans les urnes, que ça se fait dans la rue avec toutes les personnes en lutte. Et je trouve que cette journée a été réussie pour ça. Et cette journée, elle a consisté en quoi? Elle a consisté en un grand appel... À travers le mouvement Gilets jaunes, il y a des Gilets jaunes qui sont venus de toute la région Grand Nord à Amiens. Et ces Gilets jaunes-là, ils ont été rejoints par pas mal de collectifs de lutte locaux, c'est-à-dire qu'il y avait la CGT Goodyear avec Michael Wamin, il y a l'ancien porte-parole des Continentales, Xavier Mathieu, qui est venu nous passer un bonjour aussi ce jour-là et participer à la mobilisation. Il y avait les Pinel en lutte, il y avait l'Union départementale CGT de la Somme, il y avait l'intégralité des partis politiques de gauche et des syndicats qui avaient appelé à la manifestation. Et cette manifestation, cette journée de mobilisation, elle s'est déroulée en trois étapes. Le matin, avec des échanges et des discussions autour des problématiques qu'on avait rencontrées dans la lutte, sur la question des violences policières, sur la question économique, sur la question démocratique. L'après-midi, une manifestation très offensive qui nous a permis de déjouer le dispositif policier qui avait été mis en place pour nous empêcher d'arriver dans le centre-ville, ce qui n'a pas été le cas. On a pu y aller, on a pu y manifester et se faire voir des gens qui étaient présents. Et on a terminé dans la fête et dans la joie par un concert au parc de la Haute-Oie. Et je trouve que c'est une journée qui symbolisait vraiment le travail qu'on a voulu faire avec les réfractaires. Voilà. Et c'est une journée qui a été à la fois une grande journée de lutte et de joie, et une journée aussi très dure, parce que c'est aussi la journée où il y a eu le plus de répression à Amiens, avec plus d'une centaine d'interpellations. Alors tout le monde n'a pas fini en garde à vue après, mais un record d'amendes pour le nombre de manifestations, et ensuite beaucoup, beaucoup de passages dans les tribunaux suite à la manif, dont certains qui mèneront des camarades à la prison.
Et donc ouais, il y a eu cette répression policière qui a été forte. Donc la répression policière dans les mouvements des Gilets jaunes, elle est passée par plein de manières différentes. Il y a eu tout plein d'arrestations préventives qui ont été faites. Il y a eu la violence des policiers, voilà, que ça soit à travers leurs armes ou juste par leur brutalité, à travers leurs poings. Et donc on voulait aussi revenir sur ce qui t'est arrivé, Mel, le 20 avril. Voilà, donc c'était une manif à Paris qui était super joyeuse. Elle arrivait juste après le grand débat. Pour une fois, il faisait pas froid.
Non, c'était la première manif où il faisait beau. On a commencé en hiver. Du coup, vraiment, quoi, ce jour-là, le 20 avril, il fait beau. Et ça arrive juste après le grand débat. Et je connais pas un gilet jaune qui n'a pas, quelque part, mis sa pierre à l'édifice dans les grands débats, quoi. Du coup, on était tout plein de... C'est pas qu'on y croyait, mais en tout cas, on s'est dit, il va en ressortir quelque chose et il va être obligé, à un moment donné, d'ouvrir les yeux. Bon, on sait maintenant que les livres ont disparu, que les cahiers ont disparu, les 16 000 cahiers. Donc, bon, ben, ça n'a rien donné. Mais voilà, quoi, c'était une super ambiance, hyper festive. Il y avait plein de médias indépendants qui faisaient... moi, je me souviens avoir répondu à des médias indépendants sur la mobilisation, sur le grand débat. Et puis, en plus, on partait de Paris-Bercy. Donc, du coup, ça avait vraiment un sens de partir de Bercy, qui a été quand même, qui a hébergé Emmanuel Macron.
Pour rappeler, Bercy, c'est le ministère de l'économie.
Oui, c'est ça.
Voilà, et donc Macron est un ancien ministre de l'économie.
C'est ça. Et voilà. Et du coup, quoi, je trouvais que ça avait beaucoup de sens de partir de là. Et donc, c'est une manif joyeuse. Quoi, moi, j'ai un souvenir encore aujourd'hui, malgré ce qui m'est arrivé, d'une manif joyeuse, d'une manif où on chante, d'une manif... Après, il me reste pas beaucoup de choses de cette journée, parce que le cerveau, il est bien fait. Et du coup, il te fait faire un blackout qui te permet d'oublier des choses. Et donc, bon, bah, moi, j'ai rien de cette journée. Je me souviens simplement d'une ambiance hyper festive et d'avoir chanté une grosse Marseillaise sous un pont qui résonnait, d'avoir mis ma main sur ma cage thoracique et de regarder mon mari en lui disant « Regarde, ça résonne !» À ce moment-là, on était... je me sentais bien, quoi. Donc, c'est une manif. Moi, je suis... Quoi, je suis pas parisienne. Je n'ai pas déclaré la manif. Je sais pas, quoi. Je suis... Donc là, tout ce que je peux vous raconter, en vérité, je ne sais pas si c'est des souvenirs ou si c'est juste la vidéo que j'ai vue de mon agression, parce qu'au bout de 2 ans, bah, ça se mélange. Donc tout ce que je peux vous raconter, c'est que j'avance avec tout le monde, qu'il y a une ligne de CRS, que les gens font demi-tour, que moi, je fais demi-tour avec eux, j'essaye d'épingler, quoi, de faire un nœud à mon écharpe pour me protéger des gaz lacrymogènes. Pour mettre l'écharpe sur mon nez et me protéger des gaz lacrymogènes. Et je suis en queue de course, en fait. Et voilà. Et là, je tombe. Si je raconte la vidéo, en fait, c'est un CRS, quoi, un énorme CRS, hein, qui me matraque au niveau de la nuque. Et je tombe inanimée. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pour moi, quand je suis inanimée, du coup, bref, quand on me demande ce qui m'est arrivé, je pense que c'est une grenade de désencerclement. Il y a un médic qui va voir pour essayer de trouver des preuves de tout ça. Et donc, il me ramène des caoutchoucs de grenades de désencerclement. Il me les met dans ma poche. Il me dit « Oui, c'est sans doute ça, parce qu'autour de toi, il y en avait plein. » Donc, pour moi, c'est ça. Quoi. Je suis persuadée que c'est une grenade de désencerclement. Je perds plusieurs fois connaissance, hein. Je me souviens d'une hauteur mentholée. Ils ont dû mettre une bombe mentholée au-dessus de moi. Donc, je me souviens d'une odeur mentholée et d'un drap, pas un drap, mais vous savez, une couverture de survie au-dessus de moi. et d'entendre des grenades et d'entendre des gens dire « il y a une blessée, arrêtez vos conneries, arrêtez ». Je me souviens de ma camarade qui me caresse la tête, quoi, j'ai des petits trucs, quoi. Je me souviens de mon mari qui me dit « bouge les doigts de pied ». Je retombe, quoi. Je tombe à chaque fois, je tombe. Et donc, on m'emmène, pas les pompiers, mais un autre truc de soins, m'emmène dans un hôpital proche de la gare du Nord. Donc là, je suis dans une salle d'auscultation. Il y a deux soignantes. Je ne sais pas si c'est des infirmières ou quoi. Je leur demande si je peux m'asseoir. Elles me disent oui. Je leur demande si je peux enlever le collier cervical parce que les médics m'avaient mis un énorme collier cervical. Elles me disent oui. Donc je l'enlève. Je bouge mes doigts de pied, je me mets debout, je commence à marcher. J'ai un poids, quoi. C'est pas une vraie douleur, c'est un poids en haut de la colonne vertébrale, comme si quelqu'un mettait tout son poids en haut de ma colonne vertébrale et qui appuyait. C'est pas une douleur franche qui te fait mal et qui te fait pas pouvoir bouger, non. C'est il y a un truc, quoi. Il y a un truc au niveau du haut de mon dos, je sais pas quoi, mais il y a un truc. Et donc, là, on me met dans une salle d'attente. Et là, j'ai Agnès Buzyn, en fait, qui me revient en tête. Et du fichage des gilets jaunes. Et je me dis, merde, je suis en train de me mettre dans la merde, en fait, en étant à l'hôpital. Parce qu'ils vont me ficher. Je suis travailleuse sociale. J'ai une famille. J'ai pas envie d'être fichée nulle part. Je me casse. Donc, je vais à l'accueil, je leur dis que je m'en vais, ils me demandent de signer un papier, je signe le papier, je me casse. Et là, l'objectif, c'est de récupérer les trois camarades qui sont sur la place de la République. Parce que, on part à 5, on rentre à 5. Et donc, voilà, quoi, on tourne, il n'y a pas moyen. On fait la place pendant 2 heures, on tourne autour de la place pendant 2 heures, il n'y a pas moyen de rentrer dans la place pour récupérer les camarades. Du coup, au bout de 3-4 heures, les camarades sortent de la place. Je rencontre des gens, on me demande... Quoi, j'ai les camarades Damien aussi qui m'appellent, qui me demandent si ça va. Je leur dis « ouais, non ». Puis il s'est passé un truc, une grenade de désencerclement, certainement, en haut de la nuque. Ils me disent « bien fait, fallait rester sur Amiens ». Parce qu'on ne se rendait pas compte, quoi. Personne, moi-même, je ne savais pas ce qui s'était passé. Du coup, on en plaisante, même mon mari, il en plaisante, parce que lui-même, il n'a pas vu, personne n'a vu. On était tous de dos, quoi. Donc, on plaisante sur ce qui s'est passé. Le lendemain, quand je me réveille, j'arrive plus à lever les bras, j'arrive plus à lever les jambes de manière... Quoi, marcher, c'est douloureux. Lever les bras, c'est douloureux. Du coup, j'avais une Minerve qui traînait. Je mets la Minerve. C'est la fête de Pâques. Je vais chez ma mère. Elle me demande ce que j'ai. Je lui dis j'ai mal dormi. Je vais chez mes beaux-parents l'après-midi. J'allume Facebook. Là, je vois une vidéo. Je vois un flic qui court. Et je me vois au bout de sa matraque, quoi. Et là, je comprends que ce n'est pas une grenade. Et en fait, faut savoir que le flic est venu me chercher. Je n'étais pas sur sa ligne. Je n'étais pas sur la ligne de sa course. C'est-à-dire qu'il aurait pu passer à côté de moi. Au mieux. Au pire, il aurait pu me mettre un coup à la jambe. Donc voilà. Durant le procès Gilets jaunes sur Amiens, j'avais repéré une avocate et je lui avais demandé son numéro de téléphone. Mais on avait sympathisé parce que à cette époque, quoi, sur ce procès-là, elle n'était pas sur la défense de Gilets jaunes, mais d'un mec qui était sans domicile. Et du coup, en tant que travailleuse sociale, je lui avais proposé de l'accompagner, de faire les démarches 115 pour lui et tout. Donc bref, j'avais son numéro de téléphone, je lui envoie la vidéo et je lui dis « c'est moi, qu'est-ce qu'on fait ?» Elle me dit « passe au cabinet demain, on va porter plainte ». Donc je suis dans son cabinet, on s'en va au Comico pour porter plainte. Et là, ils veulent pas. Il n'y a pas moyen, elle explique. C'est sur Paris, que c'est pas leur collègue. Non, personne ne veut prendre la plainte. Ils veulent pas. Ils me disent d'aller sur Internet, qu'il y a une plateforme faite pour ça. Et qu'on ne prendrait pas ma plainte. Donc elle hurle tellement, parce qu'elle fait vraiment un vrai scandale, quoi. Elle claque les trucs... qu'un commissaire descend, un commissaire avec qui j'avais rigolé sur des manifs précédentes, parce qu'il porte un nom rigolo. Du coup, je m'étais un peu moqué de lui, mais il l'avait bien pris. Et du coup, je pense qu'il se souvient de moi à ce moment-là. Et il ouvre une porte de bureau et il dit « la personne à qui appartient ce bureau prendra la plainte ». Malgré ça, il s'en va. Malgré ça, personne ne veut prendre la plainte. On s'assoit dans le bureau et là, je ne sais pas combien de temps il se passe, mais il se passe du temps avant que une flic vienne, qui connaissait mon avocat, parce que je pense qu'elle se connaissait, quoi, je ne sais pas trop. Enfin bref, elle daigne prendre la plainte. Donc moi, quand je porte plainte, j'explique que ben, je ne me souviens de rien et que du coup, je vais leur expliquer une vidéo, quoi, je vais leur raconter une vidéo. Ma plainte revient presque 8 mois après, classée sans suite. Donc voilà, c'est classé sans suite. Donc là, j'ai 2 choix. Soit j'arrête, et le mec, ben, il s'en sort bien, et il continuera à matraquer tout ce qui passe. Et j'ai 2 gamines, dont une de 17 ans. Et voilà, quoi, je voudrais qu'elle puisse aller en manifestation et pas le croiser. C'est pour moi, c'est compliqué d'arrêter là. Et il y a la possibilité de porter plainte, mais du coup, pas contre le commissaire, quoi, contre le policier, mais contre l'homme. Et donc, c'est à ce moment-là que ça coûte de l'argent, parce qu'il y a des frais de consignation, on ne sait pas combien ça va coûter. Mais tant pis, j'y vais, quoi. J'y vais. Le mouvement Gilets jaunes, c'est un mouvement, je ne sais pas si ça existe sur d'autres mouvements sociaux, hein, mais c'est un mouvement hyper solidaire. Du coup, à ce moment-là, on m'ouvre une cagnotte. Et c'est grâce aux donateurs, hein, que je peux aujourd'hui avoir accéder à la justice. Parce que la justice, je ne suis pas sûre que je l'aurai, mais au moins accéder à la justice, c'est grâce à tous ces dons, quoi. Clairement, hein, je n'aurais pas pu y aller sans. Donc, voilà. Donc, on porte plainte directement contre ce policier. Le procès arrive, il est ce mois-ci. Je ne ferai pas de rassemblement, ce sera lui contre moi, et moi contre lui, et voilà, ce sera comme ça. Et quoi, merci à tous ceux qui soutiennent et tout. Pour ce procès, il y en aura d'autres, car faut savoir aussi que j'ai été mise en garde à vue le 12 décembre 2020 parce que, soi-disant, j'étais détentrice d'un parapluie qui appelle à la haine, ce qui m'a conduit 48 heures de garde à vue plus 24 heures de dépôt au tribunal, ce qui a conduit à un classement sans suite parce que ça n'existe pas, un parapluie qui appelle
à la haine. C'est un peu dur à qualifier juridiquement. Autant ils ont fait preuve d'énormément d'imagination pour réussir à foutre des plaintes et faire payer des amendes à des trucs de ouf. Et ça, on l'a développé plein de fois dans ces émissions sur comment ils ont vraiment construit complètement juridiquement un certain nombre de trucs et comment ils ont utilisé en fait des délits qui existaient dans la loi depuis très longtemps, qui n'avaient jamais été utilisés. Et il y avait des notes du ministère de la Justice, Ed Belloubet, de l'époque, au procureur en disant « attaquez là-dessus ». Voilà. Et donc ils ont fait preuve de beaucoup beaucoup d'imagination, mais là il y a un moment il y a des limites,
ouais,
quoi.
Y a des limites, ouais.
Donc voilà, d'ailleurs juste une vraiment petite parenthèse qui a pas grand chose à voir, mais parmi les imaginations ignobles que peuvent avoir les juges, c'est toutes les condamnations dont on a énormément parlé ici à cette antenne, de refus de test PCR des prisonniers dans les centres de rétention administratifs, où on condamne des gens à de la prison pour avoir refusé des tests. Et là, alors que ça fait plus de 1 an qu'ils utilisent ça pour mettre des gens en prison, la Cour de cassation a dit non, cette infraction n'existait pas. Voilà, mais donc il y a, des milliers de personnes qui sont parties en taule à cause de ça. Et donc voilà, leur imagination qui on parle d'imagination, mais c'est pas le bon mot, quoi. C'est leur ignominie, quoi. C'est leur vraie volonté. C'était une nouvelle qu'on a eue cette semaine. Et désolé, c'était dans le fil de la discussion. Ça me semblait important de.
On a eu des camarades
de
pour un gel pour les yeux là, sérum physiologique. Et arme par destination, un briquet, arme par destination, quoi.
Deux briquets dans la poche, on l'accuse d'avoir foutu le feu à une poubelle.
C'est...
Sans preuve.
C'est incroyable.
Même toi, il parle d'un parapluie de rassemblement, mais c'est un parapluie multicolore, quoi. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec un truc qui dit go les black blocs ou aller tout défoncer, ou abat la police.
Et puis clairement, j'ai pas de parapluie.
Et
quoi.
Non, en plus, c'était même pas elle. Enfin, c'est vraiment. On a les vidéos.
Quand, dans ma fouille, à aucun moment, même la brave, quand elle m'interpelle, je lui demande où est le parapluie. Et elle-même. Il n'y a pas de parapluie, quoi. Elle m'interpelle pour un parapluie, je n'ai pas de parapluie. Bon, c'est une, voilà, c'est une connerie sans nom. Voilà.
Elle cherche tout, n'importe quoi.
Et du coup, du fait bon, de mon agression, quoi, moi, j'ai deux cervicales de défoncées et j'en ai une de pincée. Et ben, forcément, quand tu es victime de violences comme ça... quoi, la personne que vous venez d'entendre, c'est Vanessa, du collectif des mutilés. Du coup, j'essaie de l'introduire, mais je ne sais plus comment. Et du coup, ben, forte, quoi. Non, pas forte, parce qu'au moment où je rencontre Vanessa, je ne suis pas du tout forte. Je suis dans une... quoi, c'est en mai, je me suis fait agresser... Non, c'est en juin. C'est la marche du 2 juin. Je me suis fait agresser 2 mois avant. Je ne suis pas encore revenue sur Paris. Et du coup, ma seule motivation, c'est de rencontrer ce bout de femme-là qui, par son interview, m'a donné la force. Ben voilà, quoi. Voilà. Donc, ma camarade Amandine me dit, Mélanie, tout, viens, je t'emmène, quoi. Viens, je t'emmène à la marche des mutilés. Je crois que t'en as besoin, je crois que t'as besoin de leur parler, je crois que t'as des points communs avec eux et que tu t'en... Tu sais pas, quoi. Et du coup, on y va. Et je rencontre Vanessa. Vanessa qui est là et qui me dit, parce que c'est particulier, parce que moi je suis pas mutilée, quoi, je suis blessée. Et du coup, t'as ce truc là quand t'es blessée, en plus c'est une blessure invisible, ça se voit pas. C'est bah non, j'ai rien, bah non. Bah en fait, Vanessa m'a dit si, t'es une victime comme moi, t'es une victime comme les autres. Et puis ensemble on est plus fort et tu vas venir, quoi. Et tu vas rejoindre le collectif. Et c'est comme ça que je rejoins le collectif. Suite à la marche du 2 juin.
Nous, on s'est rencontrés à Nantes il y a pas longtemps. Et c'était juste, je sais pas, ça se ressent en fait là dans les paroles, mais vous avez dégagé une énergie complètement incroyable. Voilà, et enfin, moi je trouve ça vraiment super super fort ce que vous avez fait. On a quelques minutes pour parler là des mutilés, mais en fait c'est beaucoup trop peu, donc j'espère qu'on reprendra le temps d'en parler plus longuement et tout, mais donc ouais, peut-être que si tu veux un peu Vanessa commencer un peu à raconter c'est quoi le début, et puis on finira dans une prochaine émission la suite et tous les combats que vous menez, voilà.
Ben déjà, moi j'ai été donc éborgnée, enfin mutilée plutôt, le 15 décembre 2018 à l'acte 5, où j'ai pris un tir de flashball en pleine boîte crânienne, donc où les dégâts ont été assez importants, entre perte de la vision, du goût, de l'odorat, nécrose du cerveau, plaque en métal pour reconstruire le visage. Donc voilà, un lourd fardeau quand on rentre à la maison, qu'on allume la télé, qu'on voit qu'il n'y a pas de violence policière d'après Monsieur Macron, qu'on nous traite de casseurs, de violents, et moi je suis là sur mon canapé, et moi je suis quoi ? Et puis bah, les réseaux sociaux entrent en jeu parce qu'on met des photos de moi, on trouve des témoins, il y a d'autres blessés qui commencent à venir me parler, à qui je vais parler aussi. Et de là, en fait, on s'est rendu compte que tous les blessés plus ou moins graves, on avait pris contact les uns avec les autres et qu'on ne voulait pas en rester là. Donc on a organisé une première rencontre donc à Gennevilliers, non, si c'était ça, à Gennevilliers, où c'était la première rencontre avec... pas mal de mutilés, donc c'est un moment assez dur, assez fort, parce que voilà, on se rencontrait tous, on racontait tous nos histoires, et on venait juste d'être blessés, donc voilà, c'est important. Et dès ce premier jour, on a décidé de créer le collectif des mutilés pour l'exemple, et voilà, et notre chemin a commencé là, où on a décidé de lutter ensemble, de pas être chacun dans notre coin à lutter contre l'État, contre les violences policières, et qu'on s'est dit que tous unis, on serait plus forts, et du coup, au bout de 2 ans et demi, bah oui, en fait, heureusement qu'on a créé ce collectif, parce que ça nous permet, contrairement aux blessés d'avant, de ne pas lutter tout seul, de ne pas être dans notre coin, et que quand ça ne va pas, on sait qu'il y a une main qui se tend, que quand on a besoin d'aide, que ce soit financière ou psychologique ou même juridique, on sait qu'on peut taper à la porte de quelqu'un, et ça, c'est important. Et d'être, bah, on est 28 dans le collectif, on ne représente pas tous les mutilés, mais déjà une bonne partie. Et voilà, et c'est important pour nous de serrer les coudes et de montrer qu'on existe, qu'on a subi des violences policières, mais qu'on ne se taira pas. C'est, voilà, vous nous avez mutilés, maintenant, il va falloir assumer. Et tant bien que mal, on fera tout pour se battre, pour essayer d'obtenir justice, parce qu'on travaille aussi avec d'anciens blessés, comme Castille, ou comme Myriam, ou comme l'Assemblée des blessés. Et on se rend compte que c'est compliqué d'obtenir justice, mais qu'il y a des moyens, et que les anciens blessés aussi nous donnent la force de nous dire qu'on peut y arriver. Et voilà, et notre lutte est là, et on, tant qu'il y aura des tirs de LBD, de grenades, et que, tant qu'il y aura des mutilés, de toute façon, notre choc ne sera pas passé. Dès qu'il y a un blessé, nous, on reprend un peu la mutilation qu'on a pris. Donc, c'est important pour nous de continuer ce combat et de se dire que plus tard, nos enfants, ou pour moi, ma nièce, puissent aller manifester sans devenir mutilés, handicapés à vie. Voilà.
C'est grave important. Ça m'emmerde trop qu'on n'ait pas suffisamment de temps de développer. Et en vrai, on fera ça dans une autre émission parce que je pense que c'est hyper important. Et voilà. Et en tout cas, allez suivre sur les réseaux sociaux et tout. Filez aux cagnottes parce que ça coûte extrêmement cher, que ça soit en termes de soins, en termes de procès juridiques et tout ça. Donc soutenez. Le soutien financier, il est hyper important. Soyez présents aussi aux marches des gens et tout, pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur. Voilà, c'est important d'avoir cette solidarité. Je suis vraiment désolé de couper à ce moment-là, parce que je pense qu'on pourrait partir pour encore des heures d'émission, et ça vaudrait vraiment, vraiment le coup. On va juste donner deux petites news qu'il y avait dans les CRA. Voilà.
Ouais, en fait, à la prison pour sans-papiers du Ménilamlot, là, dont on parle assez régulièrement, donc récemment, il y a eu des gens qui ont résisté à l'intérieur. Donc on nous a parlé de 4 évasions. Donc voilà, on leur souhaite bon vent et voilà, une bonne cavale et une belle liberté. Mais à côté, y a un gars aussi qui est monté sur le toit pour échapper à son expulsion. Et donc les keufs sont arrivés en nombre, ils ont essayé de le faire descendre. En fait, il y a eu un mouvement de solidarité. Les autres prisonniers, ils ont bougé, ils ont aussi sorti dans la cour. Et du coup, les keufs, ils ont été obligés de renoncer à l'expulser. Mais bien sûr, dès que ça s'est un peu redescendu, ils l'ont chopé, ils l'ont foutu à l'isolement. Et après, de l'isolement, ils l'ont direct, expulsé, ramené à l'avion, quoi.
Donc, comme d'habitude, dès qu'il y a des mouvements et tout ça, il y a de la répression contre les personnes en CRA, et il y a toujours ce pouvoir qu'ils ont de te virer. Voilà, on continuera à parler de tout ça, et on espère en tout cas que les 4 sont bien dehors et continuent à courir. On va passer des petits coucous. Déjà, il y a K qui a des messages à nous passer.
Du coup, les cassettes de K. Nadia, ils t'ont transféré au Baumettes ou quoi ? Fais signe, je t'écris. Kémy, lâche rien, ils ont renouvelé ton isolement, ça va pas durer ces conneries. Accroche-toi, et le colis arrive. Karim, garde le smile et vive les parenthèses de liberté, même en zonzon. Youssef, t'es où ? Fais signe, force, courage et détermination à tous les enfermés, toutes les proches des familles. D'ailleurs, rassemblement prévu mercredi 19 janvier pour Jimoni devant le trip de Meaux à midi. Passe le mot, la prison tue, crève l'atoll.
On va passer aussi d'autres coucous.
Un gros coucou à Mehdi.
Oui. Ouais, un coucou à Erwan, un coucou à Libreflow. On a reçu ta lettre, ça sera pour la semaine pro. Courage aussi à tous les gens qui sont à l'isolement, à tous les proches et les familles. Force, courage et détermination. Rediffusion mercredi matin à 8h30. Force, courage et détermination. Il n'y a pas d'arrangement. À la semaine prochaine.
Cher Vivi, j'écris cette lettre, plein de solitude, l'âme en peine comme d'habitude. Puis que t'es parti, puis que t'es plus là, c'est plus la même. J'ai perdu ma reine, et d'un coup mon royaume tout entier s'est vidé. Mon visage aussi s'est ridé, mon cœur lui s'est bridé. Un truc en moi, ce matin là s'est brisé. Et même si je réponds, ça va merci, j'ai dans la bouche comme un mauvais goût d'inertie. J'essaie de le masquer, mais c'est dur Vivi, je te jure, ouais, putain c'est dur. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, j'ai peur en fait. Puis que tes yeux me regardent plus, il se passe plus rien, j'ai plus même trop, je le sais, ouais. Et ça, je le vis mal, j'enchaîne les merdes. Et t'es plus là au final, il me reste quoi, moi, hein. À part des souvenirs, des tonnes de photos usées. Et puis ton sourire, trop longtemps figé. Je peux plus, ou plus pareil. Alors chaque jour, je me tue même un peu plus que la veille. Je tue le temps, parfois mal, là où tu le sens, je le sais. Mais tu manques, bébé, tu manques.
Un ange dans le ciel.
Ouais, Seigneur, accueille un ange de plus. Dis adieu, mais à plus.
Un ange dans le ciel.
Un ange de plus.
Un ange dans le ciel.
Vivi, pour toi j'ai fait pleurer ma plume. Toi et moi, on a tout fait, toujours prête à me donner ton oxygène dans les moments où tu sentais que j'ai tout fait. T'étais prête à tuer si on me touchait, prête à décrocher la lune même si je la voulais. On a grandi ensemble, construit ensemble, traversé les pires moments, vieillir ensemble, c'est ce qu'on voulait. Même si on n'était plus ensemble, on s'en foutait, c'est ce qu'on visait. Te rappelle nos fous rires, nos premiers instants, ton sourire, les moments de silence qui voulaient tout dire. On pouvait se nourrir l'un de l'autre, ouais, tellement j'étais toi, t'étais moi, et ça, nos proches en étaient témoins. T'étais ma vie, mon cœur et mon sang, t'étais mes tripes, mon moteur et mon sens à tout ça. Alors puis-je tout le temps, parfois mal être là où tu le sens. Je le sais, mais bébé, tu mens. Qu'est-ce que je peux dire de plus, à part qu'il n'y a pas qu'à moi que tu manques. C'est un gouffre que t'as laissé, Vivi. Tu sais qu'aujourd'hui il n'y a pas que mes nuits à moi que tu hantes. Pour pas tout aussi il n'y a plus d'été. Mais t'en fais pas, Vivi, non. T'en fais pas, on va relever la tête. Je sais que t'aurais voulu nous voir plus fort. Alors on va faire ce qu'il faut pour s'en remettre. Bébé, t'inquiète.
Un ange dans le ciel.
Ouais, Seigneur, accueille un ange de plus. Un ange de plus. Vivi, pour toi j'ai fait pleurer ma plume. Ouais, Seigneur, accueille un ange de plus. Vivi, je t'ai pas dit adieu, mais à plus. Un ange de plus. Vivi, pour toi j'ai fait pleurer ma plume.